7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être toujours avec nous ici sur Ligne Droite ce matin. Dans quelques minutes, ce sera la chronique de Ludovine de La Rochère. Mais avant cela, nous retrouvons pour la dernière de l'année, Jean-Yves Ganin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons donc aujourd'hui Jean-Eudes Gana. Jean-Eudes Gana, bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous?
Bonjour Alexandre, est-ce que vous m'entendez?
Parfaitement. Alors, bon, de quoi vouliez-vous nous parler pour aujourd'hui?
Alors écoutez, je voulais vous parler de, je ne sais pas si vous avez entendu parler du document que le Foreign Censorship Part 2, vous savez, ce document qui a été établi par les républicains américains à propos de la censure de la liberté d'expression dans le monde occidental.
Alors non, j'ai pas eu l'occasion de le consulter, mais vous, visiblement, oui.
Un petit peu. Alors, en fait, c'est un document de plus de 100 pages qui accuse la Commission européenne d'avoir exercé une pression sur les plateformes Internet numériques, donc Google, Meta, TikTok, X, etc., pour censurer les discours politiques souvent qualifiés de populistes, anti-migrants, anti-Union européenne, avant au moins 8 élections dans 6 pays européens depuis 2023. Donc, ça concerne la Slovaquie en 2023, les Pays-Bas en 2023 et 2025, l'Irlande en 2024 et 2025, la France en 2024, la Moldavie en 2024 et puis la Roumanie en 2024, puisque je pense que nos auditeurs se souviennent qu'une élection présidentielle avait été annulée là-bas. Ligne Droite avait d'ailleurs couvert cela, il me semble.
Via moi, tout à fait.
Ah voilà, grâce à Alexandre de Galza. Et donc, il y a d'ailleurs un résumé dans ce rapport totalement accablant sur deux paragraphes à propos de Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, centré sur des accusations très lourdes issues du rapport du House Judiciary Committee avec un certain nombre de controverses. Voilà. Le rapport intérimaire républicain américain dont je vous parle accuse donc directement la Commission européenne dirigée par von der Leyen d'une campagne de censure mondiale sur plus de 10 ans via le Digital Service Act, le DSA, qui a exercé une pression intense sur toutes ces plateformes numériques, sur les big tech, pour supprimer, déprioriser des discours politiques populistes ou conservateurs, donc avant au moins 8 élections. Et puis, il y a un certain nombre de mesures, hein, indépendamment de ce Digital Service Act, qui est donc un ensemble, une forme de corpus législatif. Il y a aussi des mesures douces, voilà, des codes de conduite prétendument volontaires. Il y avait un code de conduite sur les discours haineux en 2016, un code pratique sur la désinformation en 2018. C'était imposé aux plateformes, mais soi-disant, c'était sur la base du volontariat. Voilà, sachant qu'en réalité, les entreprises savaient qu'elles n'avaient pas vraiment le choix d'y participer, bien sûr. Il y a aussi des forums réguliers, l'UE Internet Forum, fondé en 2015, qui a publié en 2023 un manuel à usage des entreprises technologiques pour modérer des contenus légaux, pas illégaux, tels que la rhétorique populiste ou alors des contenus anti-gouvernementaux, anti-Union européenne, anti-vax et même... Je cite à chaque fois, la satire politique et même certains mèmes. Voilà. Alors, le rapport marque explicitement la France comme cible d'ingérence électorale de l'Union européenne avec des réunions secrètes, des rapid response systems et des documents internes prouvant que ça visait à protéger le camp centriste pro-Union européenne, en fait le bloc central de Macron, hein, contre les oppositions, principalement le RN. Créant d'ailleurs un effet extraterritorial, c'est même pas que la France qui est concernée, c'est vraiment une politique menée à l'échelle européenne qui censure même certains Américains sur des réseaux sociaux qui seraient consultables depuis l'Europe, sur des sujets vrais mais sensibles, notamment au moment du Covid, notamment au sujet de l'immigration. On a vu là récemment que Elon Musk m'avait fait la grâce, l'honneur de relayer ma vidéo avec les Afghans devant le Leclerc. Et d'ores et déjà, il y a des éditorialistes et des politiques qui dénoncent une ingérence américaine et qui disent qu'il faudrait exercer une forme de censure parce que ça se fait au bénéfice des activistes identitaires. Voilà. En tout cas, dans ce rapport, Macron apparaît vraiment comme le principal allié et imposeur, si je puis dire, de von der Leyen depuis 2019, formant avec elle un tandem de technocrates atlantistes qui impose, bon bah vous le savez, la dette explosive, l'immigration incontrôlée, les accords de libre-échange très très contestés, etc. Alors, pour être franc avec vous, je ne suis pas le plus démocrate de la bande, du moins pas au sens que donne au sens au mot démocrate les amoureux du système électoral. Mais ce qui est scandaleux, c'est que ceci soit l'œuvre justement des parangons de vertu démocratique qui en réalité truquent des élections, les annulent, etc., en prétendant au contraire empêcher les tricheries et protéger les élections. C'est vraiment une inversion accusatoire qui rappelle encore une fois l'URSS et le monde soviétique. Mais la réalité, c'est que tout ceci montre que le roi est nu. Voilà. Dans quelques années, je crois, plus personne ne défendra la démocratie et l'état de droit au sens où on nous a bassiné un petit peu avec ça depuis un certain nombre de décennies. Voilà, on ne défendra plus cela de la même manière que celle qui est à la mode en France depuis la fin du gaullisme, avec ses litanies gauchisantes et moralisatrices. Parce qu'il y a trois facteurs au moins qui vont pousser nos pays occidentaux à l'autoritarisme, et ceci, quels que soient les partis au pouvoir. Il y a d'abord, bien sûr, l'accélération des tensions mondiales. C'est en grande partie l'exemple dont je viens de vous parler, hein, parce que dans la logique de quelqu'un qui est pro-européen, libéral, démocrate, la menace russe, dont on sait qu'elle est largement instrumentalisée, conduit à bafouer tous les pseudo-principes démocratiques pour protéger la démocratie. Voilà, ça passe par des annulations d'élections en Roumanie et aussi, par exemple, par l'emprisonnement de Vincent Perfetti avec peu de bases légales, voilà, sous prétexte. Et je peux l'entendre encore une fois, on est dans un contexte de tension avec la Russie, qu'on emprisonne des opposants, pourquoi pas, mais ceci est toujours fait au nom de la démocratie, avec énormément d'hypocrisie, en bafouant l'état de droit, au nom de l'état de droit. Voilà. Il y a un autre facteur qui va faire que la démocratie va prendre un coup dans l'aile, si je puis dire, c'est la crise économique mondiale. Les pays surendettés d'Europe de l'Ouest seront mis, quoi qu'il arrive, sous tutelle par des instances supranationales, faute d'avoir su eux-mêmes mener les réformes structurelles nécessaires. Et là, vous verrez que ce sera d'une grande brutalité et que l'état de droit, encore une fois, sera un petit peu mis au placard. Et puis enfin, il y a nos situations intérieures migratoires dans les pays d'Europe de l'Ouest, puisqu'en réalité, moins il y a d'homogénéité ethnique, moins et culturelle, moins la libre expression dans la cité est permise, puisque des groupes aux intérêts antagonistes doivent être mis sous pression si l'on veut éviter les conflits ethniques. C'est grosso modo la Syrie de Bachar al-Assad avec une dictature laïque et à la fin, ça finit toujours par exploser. Et à ce sujet, je suis obligé de vous parler de la vidéo du jeune Louis que j'ai découvert hier soir en rentrant de prestation. J'étais prestataire sur un mariage hier soir et sur le coup de minuit, j'ai découvert cette vidéo horrible du lynchage donc d'un jeune blanc par des chances pour la France. Et il est clair que ce soit pour imposer l'immigration comme le font nos gouvernements actuels ou alors pour s'en débarrasser, il n'y a aucune solution purement démocratique, aucun état de droit respecté sous toutes les coutures qui n'est envisageable. Voilà. Il faudra, quoi qu'il arrive, faire preuve d'autorité, revenir sur ce faux état de droit, qui est devenu d'ailleurs en plus en France un état de droit des étrangers. Et puisque je parle de ce jeune Louis, je soumets ça à nos auditeurs, mais je me demande vraiment comment il se fait que les mineurs, les gosses là, qui se sont filmés en train de massacrer ce gamin et qui l'ont laissé agonisant toute une nuit dans un chantier, comment c'est-il qu'il ne soit pas déjà en prison, voilà, au Maroc, il serait dans un sous-sol à 40 mètres de profondeur, au pain sec et à l'eau, et sans doute passible de la peine de mort. Et puisque nous, après tout, on a la prétention d'être plus humains et plus gentils, peut-être devrions-nous tout simplement envisager de renvoyer ces garçons, ces monstres, avec leurs familles respectives, dans leur pays d'origine, voilà, couler une douce vie au soleil, mais très très loin de chez nous.
Merci Jean-Luc de Ghana. Simplement, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, je trouve que ce qui a le fil rouge quelque part de vos chroniques de toute cette année se retrouve assez bien dans celle-ci, c'est à nouveau cette forme d'anarcho-tyrannie, dans le sens où effectivement, si ces jeunes se filment de leur côté, c'est évidemment parce qu'ils ont un sentiment probablement d'impunité et l'idée derrière eux que après tout, malgré la gravité de ce qu'ils font, les conséquences ne seront sûrement pas excessivement lourdes. D'un autre côté, évidemment, vous parlez donc d'Emmanuel Macron et de la Commission européenne qui, sous de très jolis prétextes, font avancer leurs propres idées, leurs propres idéologies, ce qui me faisait penser d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Parlement européen à Bruxelles, mais on y voit écrit en immense à l'entrée « Democracy in action ». Ce qui manque jamais d'ironie, mais cela étant, oui, c'est cette anarcho-tyrannie finalement qui ressort assez de ces deux affaires que vous mettez en parallèle.
Tout à fait. Et puis en fait, le simple fait qu'on puisse écrire Democracy in Action est déjà la preuve que la démocratie telle que l'entendent nos dirigeants n'a rien à voir avec ce que devrait être la démocratie. La démocratie devrait être la capacité pour des citoyens d'une même culture et d'un même peuple à s'organiser à peu près comme ils le veulent. Or, pour eux, la démocratie, donc la démocratie en action, c'est en réalité une idéologie avec plein d'idées qui sous-tendent le mot démocratie, à savoir le vivre ensemble, la démocratie libérale, le libre-échange, etc. Et voilà, en fait, c'est ça qu'ils mettent en action. Ce n'est pas la démocratie, c'est une idéologie qu'ils ont caché derrière le mot démocratie.
Mais c'est la fameuse opposition entre république et démocratie, et cette idée finalement dévoyée selon laquelle la république permettrait de garder des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité contre la démocratie qui, elle, pourrait menacer ses propres idées en élisant des personnes qui ne les promouveraient pas.
Oui, voilà, la fameuse menace populiste.
Merci beaucoup Jean-Yves Gana d'avoir été avec nous ce matin. Alors je ne vous dis pas à la semaine prochaine, étant donné que Ligne Droite, la saison de Ligne Droite s'arrêtera mardi prochain, mais enfin merci beaucoup pour toutes vos chroniques de cette année, pour celles d'aujourd'hui, et on l'espère, on vous retrouve en septembre frais et dispo.
Avec grand plaisir, bonnes vacances à tous.
Ligne Droite.
Et pour également une dernière chronique, nous retrouvons Ludovine de la Rochère. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors, vous m'expliquiez qu'aujourd'hui, nous allons faire plus un petit entretien qu'une chronique. Tout d'abord, vous vouliez parler donc des méthodes de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui privilégie sans cesse les progressistes pour tenter de faire taire donc les opposants à ces mêmes progressistes. Vous étiez donc à l'ONU récemment.
Oui, exactement. Alors, il faut que j'explique que le syndicat de la famille est organisme consultatif à l'ONU, ce qui me conduit régulièrement au siège des Nations Unies à New York ou à Genève pour intervenir sur des sujets, comme vous l'imaginez, sociétaux, comme on dit, anthropologiques, humains en fait, moraux, éthiques, enfin, etc. En l'occurrence, là j'étais à Genève, c'est la session du Conseil des droits de l'homme, qui est une session très importante à laquelle participent tous les représentants des États membres, c'est-à-dire les diplomates, les ambassadeurs, et parfois même les gouvernements. Cette session, au cours de cette session, il y avait d'abord une première rapporteure spéciale, en l'occurrence sur la traite humaine, qui lundi présentait un rapport sur ce sujet-là, un rapport qu'elle a longuement exposé. Je vous laisse imaginer la situation, malheureusement, dans un certain nombre de pays. En termes d'exploitation humaine, c'est assez terrible. Mais enfin, elle a omis complètement, entièrement, la gestation pour autrui, alors même que cette pratique génère un trafic international d'êtres humains incontestable, très important, qui ne cesse d'augmenter et dans laquelle, évidemment, les mères comme les enfants sont chosifiés. Ils sont l'objet de transactions de location pour les mères, j'allais dire, et de transactions pour ce qui concerne les enfants, avec des flux qui vont généralement de pays pauvres vers les pays riches, ou alors de pays corrompus, alors pays pauvres vers pays riches, on pourrait parler du Nigeria, par exemple, ou pays corrompus, l'Ukraine est littéralement une fabrique d'enfants à fournir dans le monde entier. Et puis, ce sont aussi des États dans lesquels le commerce prime sur tout le reste. Par exemple, la Californie, donc ce n'est pas tous les États-Unis, mais certains des États des États-Unis. Et ce commerce, tout cela, cette traite humaine, génère aujourd'hui à peu près 30 milliards de dollars annuels. Et cette rapporteure n'a pas dit un seul mot de ce sujet-là. Et à l'issue de son exposé, il y a plusieurs séances qui y sont consacrées avec des commentaires et des questions. Elle a été longuement comment dire, félicité, tout le monde a appuyé son propos, enfin tout le monde, la plupart des États membres. Un certain nombre d'autres sont restés silencieux. Mmh. Et d'ailleurs, c'est à la suite de cette, c'est dans le cadre de cette conversation, de cette, de ce moment que moi j'intervenais sur la gestation pour autrui. Et puis le lendemain, il y a eu donc silence complet, c'est le déni, le voilà, ce qui est une manière d'ignorer, de ne pas traiter un sujet et de laisser cette pratique se développer. Oui. Voilà, sans que l'ONU n'intervienne. Le lendemain, il y avait une autre rapporteure spéciale, en l'occurrence sur les violences faites aux femmes, qui s'appelle Rema Al-Salem. C'est elle qui, il y a 18 mois, a publié, en l'occurrence, un rapport condamnant toute forme de GPA, un rapport qui était historique. Cette fois-ci, elle présentait un rapport sur les violences faites aux mères. Mmh. Un sujet très important, une femme qui attend un enfant ou qui vient d'avoir un enfant est souvent en situation de vulnérabilité. Et elles sont particulièrement fragiles, elles sont particulièrement victimes aussi, elles-mêmes et leur enfant. Et Rema Al-Salem a fait un très beau rapport, qui était une première, là encore, puisque la maternité, les féministes ne s'y intéressent jamais, les progressistes ne s'y intéressent jamais, les instances internationales non plus, c'était tout à fait bienvenu. Mais alors Rema Al-Salem a fait une folie, elle a pris un risque majeur. Elle a osé parler, donc à propos des violences faites aux mères, elle a osé parler des avortements forcés. Oui. Alors, le grand sujet de l'avortement, c'est la liberté de la femme, c'est le choix de la femme, c'est mon choix, mon corps, ma liberté, enfin, etc. Là, elle parlait d'avortement forcé. Oui. Dans la salle de l'Assemblée générale de l'ONU, ça a été le silence complet, c'était la stupeur, elle avait osé. Là-dessus, un certain nombre d'États membres ont pris la parole pour critiquer. D'autres se sont tus pour la critiquer. Et puis, ce qui a été assez stupéfiant, c'est que c'était en plusieurs séquences. La deuxième séquence qui était consacrée théoriquement à cet échange autour de son rapport, qui après initie des travaux qui peuvent aller vers le droit international, le législatif, des conventions, etc. Cette seconde séquence, alors que le sujet est vaste, alors qu'il est important, alors que la démographie s'effondre, alors qu'on a intérêt à valoriser la maternité, la deuxième séquence a été réduite des deux tiers du temps. Mmh. Rema Al-Salem n'a eu que 8 minutes pour répondre aux critiques. Et nous étions une quinzaine d'ONG venues de tous les continents qui devions nous exprimer. Donc je devais parler aussi sur ce sujet-là. Comme le temps était raccourci, il n'y a eu que 5 ONG qui ont pu s'exprimer, bien sûr pour critiquer violemment Rema Al-Salem, je pense en n'ayant même pas lu le rapport, et parce qu'elle remettait les causes en cause, les droits des femmes, etc. Mmh. Et on voit là, mais très concrètement, l'une des manières dont l'ONU tente de faire taire ceux qui ne pensent pas comme le veulent ceux qui financent l'ONU, parce que derrière, l'arrière-plan, c'est celui-ci. Hein. Ce sont plutôt les pays d'Europe du Nord très progressistes qui financent l'ONU et qui imposent leur ligne politique la ligne de l'ONU avec un déroulé tout à fait stupéfiant. Mmh. Il faut savoir que derrière, ça engendre un certain nombre de décisions qui fondent l'argent qui est déversé par les agences de l'ONU à un certain nombre d'États. Donc, au final, ce sont des conséquences très concrètes. Voilà comment on fait taire même une rapporteure spéciale de l'ONU.
Il nous reste 2 minutes, Ludovine de la Rochère. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point justement sur la loi euthanasie qui sera votée mardi prochain ?
Alors, effectivement, la loi euthanasie, la proposition de loi euthanasie est maintenant en troisième lecture. On est en pleine semaine d'examen en séance publique dans l'hémicycle par les députés. Or, avant-hier, il est arrivé un fait assez stupéfiant et intéressant. Un amendement avait été déposé, en l'occurrence par une députée du RN, pour que les médecins n'aient pas à pratiquer le geste euthanasique, que ce soit euthanasie ou suicide assisté, pour qu'ils ne soient pas impliqués dans ce geste. Et cet amendement est passé, il a été adopté, et même à 124 voix contre 102, donc
assez largement.
Avec une certaine différence. Et donc c'est en plus un amendement qui touche l'article 2. Et cela veut dire que, d'une certaine manière, le cœur même du dispositif se trouve, alors il compte sur les infirmiers pour le faire, hein, mais le cœur même du dispositif est mis à mal. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que le débat s'est porté sur le serment d'Hippocrate,
oui.
Qui disait bien sûr, on le sait tous, « tu ne tueras point ». Et ça veut dire que cette fois-ci, ils ont abordé avec les mots qui disent les choses, ils ont abordé le cœur du sujet et la question de savoir si on peut envisager de tuer délibérément, et en particulier pour ce qui concerne les médecins. Donc là, ça a été un moment tout à fait, j'allais dire, de vérité, ce qui a cruellement manqué jusque-là, et bien sûr c'est gravissime. Alors, à vrai dire, vous l'imaginez bien, le rapporteur de la commission des affaires sociales demandera un deuxième délibéré, ce qui est une méthode tout à fait scandaleuse, mais qui est légale. Et en attendant ce deuxième délibéré, ce deuxième vote sur cet amendement, eh bien, tout cela se poursuit comme si de rien n'était. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'appelle, bien entendu, à rejoindre, pour tous ceux qui le peuvent, la manifestation de dimanche à Paris. Le rendez-vous est donné à 16h. Le rendez-vous est donné à 16h. Et il faut savoir qu'il fera 10 degrés de moins.
Ah.
Donc, ce seront de bonnes conditions. Et même s'il pleut un peu, c'est possible. C'est pas grave, ça fera beaucoup de bien. Il faut venir à cette manifestation. Le rendez-vous est donné juste à côté des Invalides. J'ai pas le nom de la place en tête, mais c'est sur internet, sur le site jusqu'à-la-vie.fr.
Voilà, donc jusqu'à-la-vie.fr, soyez présents à cette manifestation, chers auditeurs, si jamais vous souhaitez montrer voilà, votre opposition à la loi euthanasie qui sera votée mardi, et montrer peut-être aux députés qu'il existe une opposition dans la population française. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère pour cette chronique, pour cette saison.
Merci, et
écoutez,
Alexandre.
On vous retrouvera en septembre.
Exactement, à très bientôt, bon été.
Bientôt. Merci.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous retrouvons, pour la dernière fois de l'année également, décidément, c'est fort triste, Jean Messia. Jean Messia, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Alexandre, ça va très bien, chaudement comme tout le monde.
Oui, alors ce que j'allais dire, c'est que supportez-vous la chaleur, que pensez-vous de cette... on va parler un petit peu météo ce matin quelque part, mais que pensez-vous de cette canicule tout à fait exceptionnelle qui frappe le pays depuis 5 jours ? Qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement quelque part ?
Bah, vous savez, la dernière fois que j'ai eu aussi chaud sous une pareille canicule, en étant évidemment dans des endroits... comment dirais-je, des maisons, etc., c'était dans les pays du tiers-monde, des pays sous-développés, des pays qui n'avaient pas les moyens de s'adapter finalement au climat. C'est comme ça en fait que je suis rentré dans ce sujet, parce que je me suis dit comment ça se fait que la France, qui est quand même réputée être la 6e ou la 7e, elle était 4e dans les années 80, quand j'étais adolescent, elle est désormais 7e puissance économique mondiale, n'est climatisée finalement que comme un pays moyen, un pays de puissance moyenne, voire un pays de puissance faible. Et donc, si vous voulez, je suis rentré là-dedans en me disant, il y a un dérèglement climatique, je ne sais pas si on peut parler de réchauffement, mais en tout cas, il y a un dérèglement climatique qui se traduit par des épisodes effectivement caniculaires, par des pluies... souvent diluviennes, etc. Que fait la France, finalement, par rapport d'ailleurs à tous nos ancêtres qui ont su dompter la nature, puisque le progrès scientifique, à la base, c'est quoi ? Le progrès scientifique, c'est pour garantir à l'homme de se protéger contre les éléments naturels et d'économiser, en quelque sorte, c'est son énergie, sa fatigue, au moyen de progrès techniques. Bon, qu'est-ce qu'a fait notre génération depuis la canicule de 76, puisqu'on en a beaucoup parlé ? Cette canicule-là n'est pas nouvelle. J'avais eu d'ailleurs l'occasion de gérer la canicule de 2003. J'étais alors directeur du préfet de l'Eure, directeur de cabinet, et j'avais eu donc à gérer au niveau du département cette canicule qui avait fait à l'époque 15 à 19 000 morts selon les chiffres. Qu'est-ce qu'on a fait entre 1976, le rappel de 2003 et la canicule de 2026. Quel plan technologique de protection des Français contre ces aléas climatiques extrêmes a-t-on mis en œuvre ? Rien. Qu'est-ce qu'on veut ? Le progrès technologique français aujourd'hui se résume au principe de précaution. On préfère, si vous voulez, vous dire « Ah non, mais la climatisation, on ne sait pas ce qu'elle rejette, donc on préfère en gros assurer la survie du coléoptère à poil ras, mais nos personnes âgées, nos écoles, nos bébés, etc., ça ne vaut pas la peine. Et sans parler des millions de Français qui souffrent dans les transports en commun, chauffés à 41 degrés, qui sont obligés de le faire parce qu'ils vont travailler. Vous voyez ? Donc, moi, je veux qu'on remette l'église au centre du village, parce que, si vous voulez, il y a là deux paradoxes. Le premier, c'est comment un pays aussi riche ne parvient pas, finalement, sur des choses assez basiques et sur une technologie qui est quand même maîtrisée. Il ne s'agit pas d'inventer les nouvelles technologies du métaverse. Oui. On parle de clim, excusez du peu. Si la France n'est pas capable, si vous voulez, de non seulement de climatiser, mais avec des climatisations dernière génération qui sont bien moins énergivores que ceux des années 70, qui posent beaucoup moins de problèmes au climat et à l'atmosphère que le posaient ces climatiseurs anciens, bruyants des années 70 et 80. Mais alors, c'est la honte absolue parmi les pays occidentaux. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de s'exciter à dire « on va pouvoir régler le dérèglement climatique », compter sur Macron, sur les COP, sur les conférences climat, la France est leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais mec, t'es leader de rien du tout, en fait. Tu veux régler le thermostat mondial quand t'es pas capable de nous dire qui rentre dans ton pays, qui franchit les frontières. Ça aussi, c'est ce qui fait de nous la risée du monde, de nous présenter comme ceux qui pourraient régler un problème qui concerne le globe terrestre dans son ensemble, alors que nous ne sommes infoutus de garder nos usines, infoutus de garder nos technologies, infoutus de garder nos brevets, infoutus de payer une recherche-développement convenable pour avoir des champions, y compris de la clim, nationaux, infoutus d'exécuter des OQTF, des mecs qui rentrent sur votre territoire, qui en plus sont des criminels, vous êtes incapables de les virer, mais vous êtes capable à vous tout seul, de changer le climat mondial.
Ouais, non, mais
alors ça, oui.
Non, mais ça, c'est vraiment effectivement une chose qui est assez impressionnante. Je rappelle deux, trois chiffres quand même. C'est que la France pèse entre 0,7 et 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. À côté de ça, évidemment, la Chine, elle, est en pleine croissance à ce niveau-là. Que sur la climatisation, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me sidère aujourd'hui parce que j'ai l'impression que la posture anti-clim, plus personne ne la tient vraiment. Même Marine Tondelier, patronne des écologistes, s'est un petit peu reculée là-dessus en expliquant qu'elle n'était pas opposée à la clim par principe. Mais évidemment que la clim n'est pas la seule solution aux vagues de chaleur, aux canicules qu'on devrait de plus en plus subir ces prochaines années, ces prochaines décennies. Mais d'un autre côté, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, les gaz réfrigérants sont très très largement moins polluants que par le passé. Et à côté de ça, la France, qui a quand même gardé dans tout ça son énergie nucléaire, peut se permettre une consommation d'électricité théoriquement pour un bon marché, et à côté de ça, une consommation d'électricité nucléaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se refroidir au charbon, quelque part.
Donc, exactement.
En l'occurrence, j'ai l'impression que ce qui reste dans toute cette affaire, c'est uniquement des postures.
Ce qu'on entend sur la clim aujourd'hui, c'est ce qu'on entend au lendemain de chaque élection de Macron. Quand vous demandez aux gens dans la rue, personne n'a voté Macron. Personne. Et donc, vous dites, il est arrivé par une opération…
du Saint-Esprit.
Voilà, c'est ça, un vol à puque extraterrestre. Alors que bien sûr qu'on sait que beaucoup de gens ont voté Macron, qui se sont mordus les doigts et que du coup, ils ont maintenant même honte de dire qu'ils ont voté Macron. Pour la clim, c'est pareil. Mais vous savez, qu'est-ce qui les fait changer d'avis, ces gens-là, les écologistes dont vous parliez et que vous citiez à juste titre ? C'est parce qu'eux-mêmes sont en train de transpirer et de suer. Ces gens, en réalité, sont de foutus égoïstes qui ne veulent régler le problème comme les autres le poussent à le faire que lorsque eux-mêmes en souffrent. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup changent d'avis, par exemple, sur les problèmes d'insécurité liés à l'immigration quand ils y font eux-mêmes face. Tant qu'ils percutent pas eux-mêmes le mur des réalités dénoncées par ce qu'ils appellent les fachos, ils restent arc-boutés sur leur position. Mais comme là, pour le coup, le climat, il est pour tout le monde. Donc, ils ne peuvent pas se dire, moi, en tant qu'écolo, j'ai un discours qui est déconnecté avec ce que je vis.
Ou alors, le climat, il est pour tout le monde, à moins d'avoir la clim.
Bah, comme ils ne l'ont pas, justement, parce qu'au départ, on peut aussi leur donner ça. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ose espérer, si vous voulez, qu'ils se sont mis dès le départ en adéquation et en conformité avec leurs arrière-pensées, qu'ils n'avaient pas de clim chez eux.
À votre avis?
Soit c'est de gros hypocrites, ce qui n'est pas à exclure, et de gros menteurs, et ils ont la clim pendant qu'ils proposent aux autres de ne pas le faire. D'ailleurs, vous avez partiellement raison, parce que Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, ou Anne Hidalgo, ou Marine Tondelier, ou tous ces représentants, vous croyez qu'ils se baladent dans des bagnoles qui ne sont pas climatisées? Non, ils se baladent dans des bagnoles où ils sont tout seuls, largement confortablement assis à l'arrière, avec le vent frais, et ils appellent à l'éradication et à l'interdiction des clims pendant que des centaines de milliers de Parisiens s'étouffent dans les transports en entendant ce discours. Voilà. Là, si vous voulez, parce que là, ça devient trop, trop gros. La France entière, plus personne aujourd'hui, avec la chaleur que nous venons de connaître ces derniers jours, et surtout aujourd'hui, qui, je le rappelle, sera la journée la plus chaude, plus personne n'est en mesure d'entendre la clim, ça sert à rien.
Oui, mais surtout
lorsque les gens se ruent dans les centres commerciaux, si vous voulez, pourquoi ? C'est pour faire leurs courses, mais pas que. Donc on voit bien qu'il y a une vraie demande quand même. Si vous voulez, aujourd'hui, la clim est aussi indispensable que ne le fut le chauffage il y a des siècles. Mmh. Quand la France s'est mise à faire des chauffages centraux, des radiateurs, etc., c'est parce qu'effectivement, le climat français, la France étant dans l'hémisphère nord, il y a eu besoin de chauffage à un moment. Donc, on s'est mis à avoir des plans de chauffage pour les maisons, pour les grands complexes, etc. Donc, si vous voulez, si les écologistes sont logiques, ils devraient alors interdire la clim, dont acte, mais ils devraient aussi dire qu'il faut démanteler le chauffage. Oui. Alors, ils vous diront, mais non, puisqu'il y a des nouvelles technologies qui permettent de chauffer de manière très peu énergivore, mais ça tombe bien.
Oui.
Il y a aussi des nouvelles technologies de climatisation qui permettent aussi de manière écologique. Alors pourquoi ce deux poids deux mesures ?
Non, mais surtout que déjà, pour le coup, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais l'écologie, c'est pas uniquement la question climatique. Ça, c'est un premier point qu'oublient souvent les écologistes. Il y a aussi la question de la santé là-dedans, par exemple. Et c'est vrai que on observe. Moi, je voyais un graphique très intéressant que je vais essayer de retrouver en vous parlant. Mais effectivement, on observe que quand la chaleur arrive à un certain niveau, par exemple, la quantité de sommeil baisse de manière drastique. C'est-à-dire que quand on arrive à 30 degrés Celsius à peu près, en extérieur, bien sûr, là, déjà, on change d'une heure, on aurait une heure et demie de sommeil en moins en moyenne. Et ça, c'est pareil, la productivité au travail baisse de 20%.
Tout à fait.
Pareil, dans les écoles également, où on perd aussi plusieurs pourcents de capacité de concentration, justement à cause de la chaleur. En fait, finalement, avec la probable multiplication de ces épisodes à l'avenir, quelque part, ça devient un enjeu de santé publique, un enjeu national, cette affaire de clim.
Vous m'enlevez ces sujets de la bouche, mon cher Alexandre, parce que je fais paraître ce matin, c'est vos confrères de Valeurs Actuelles, une tribune intitulée « Les tentacules de la canicule ». Et effectivement, un épisode caniculaire comme celui-ci, il a des impacts, et je ne parle même pas des personnes vulnérables. Excusez-moi, mais où est la gauche ? La gauche qui, souvent, avec beaucoup d'hypocrisie, avec une dramatisation mélodégoulinante, veut s'occuper des personnes vulnérables. Mmh. Les personnes vulnérables sont en première ligne des risques encourus par cette canicule. Les personnes âgées, les nourrissons, etc. Et pourquoi dans les EHPAD, on dit qu'il y a une pièce fraîche ? Parce qu'on sait très bien que quand il y a une pièce fraîche, c'est-à-dire climatisée, eh bien, il y a beaucoup moins de risques de mortalité. C'est d'ailleurs la mesure qui avait été prise après la canicule de 2003. Je ne comprends pas. Alors, les personnes vulnérables doivent être étrangers pour être vulnérables. Les Français âgés ou les Français bébés n'ont pas l'heure de figurer parmi les personnes vulnérables du scope de la gauche, qui doivent être protégés par la gauche. Je ne comprends pas. Évidemment, les conséquences économiques dont vous parlez, j'écoutais hier chez vos confrères de CNews, l'économiste Martouati, nous dire que cet épisode caniculaire nous coûtera, selon ses calculs, entre 0,2 et 0,4% de croissance.
Oui.
Effectivement, mais c'est aussi, mais vous savez, le progrès technologique C'est ce qu'on appelle des grappes, en fait, des grappes d'innovation et des grappes de croissance. Lorsque on a commencé à faire en sorte que l'homme ne marche pas, mais qu'il roule, il y a eu le confort, effectivement, de ne plus marcher, mais vous savez très bien que c'est mis en place un écosystème macroéconomique au centre duquel il y avait la voiture, le camion, etc., qui a permis un développement considérable dans le transport de marchandises, etc., etc. Donc, il ne faut pas croire que lorsqu'on fait une invention, par exemple, lorsqu'on fait un progrès technologique sur quelque chose qui irrigue l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la société, comme la climatisation, ça va évidemment, cette irrigation va être prolongée en continuum dans tous les autres domaines de la vie. Celui de la santé, celui de l'économie, celui des transports, celui même des loisirs, etc., etc. Donc, c'est comme quand on a inventé l'ordinateur, c'est la même chose. On a inventé l'ordinateur, mais une fois après qu'on a inventé Internet, les ordinateurs ont été en circuit, on a pu faire circuler l'information. Je pense que l'écologie politique est une idéologie mortifère. C'est du malthusianisme.
Dans sa forme actuelle, en tout cas, oui.
Oui, c'est du malthusianisme à la fois démographique. N'ayez pas d'enfants parce que ça pollue. Alors par contre, faites venir des immigrés parce que là, bizarrement, ça pollue moins. Ne faites pas de progrès technologique, parce que tout progrès technologique, c'est un minimum de rejet dans l'atmosphère, donc surtout pas. Donc, c'est la décroissance. C'est-à-dire, non seulement on ne peut pas garder le progrès que nous ont octroyé nos générations d'aïeux, mais il faut que nous retournions vivre comme des Amish pour que la planète soit écologique. Il ne faut plus de lumière, il ne faut plus de voitures, il ne faut plus de fours, il ne faut plus de frigos, il ne faut plus de cuisinières. Pour vivre comme du temps du Néandertal. Et là, on aura une planète qui sera sauvée. D'abord, à part quelques hurlus-berlus français qui écoutent ce discours, j'aimerais bien que les écologistes aillent expliquer ça à la Chine, ou à l'Inde,
oui,
ou
ça,
à
c'est toujours, aux États-Unis. Ça, c'est toujours le problème, c'est qu'effectivement, de toute façon, ça, c'est quelque chose que comprennent visiblement pas les écologistes français, même européens, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique et contre les émissions de gaz à effet de serre n'a d'intérêt que si elle est mondiale. Sinon,
n'a aucun
c'est,
effet à notre niveau.
Voilà, et actuellement, elle n'a que très, très peu d'effet. Mais Jean Messier, il nous reste seulement 4 minutes. Il y a un deuxième sujet dont vous vouliez parler, c'est effectivement cette histoire dont Alice Cordier nous parlait tout à l'heure, mais du jeune Louis tabassé récemment, à seulement 17 ans, tabassé à mort par 5 jeunes. Expliquez-nous.
Bah écoutez, pour moi, c'est le énième francocide. Vous voyez bien que dans la répétition, la fréquence et le rapprochement entre ces faits tragiques, plus personne, sauf des gauchistes menteurs comme des arracheurs de dents, peuvent nous expliquer que c'est une succession de faits divers. Hein. Surtout lorsque ces mêmes gauchistes transforment en phénomène systémique ceux qui ne sont de base que des faits divers. Hein. Moi, je suis atterré, si vous voulez, du peu de réaction nationale par rapport à cela. Là, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, aucun média n'en aurait parlé. Parce que les Français ont interdiction de pleurer ou d'éprouver même la moindre douleur vis-à-vis d'un drame qui concerne l'un de leurs enfants. Parce que pleurer l'un de ses enfants pour les Français fait d'eux des fascistes, des haineux d'extrême droite. Et pour peu, comme c'est je crois le cas ici, que certains profils soient originaires de certaines immigrations arabo-afro-islamiques, et immédiatement, votre douleur devient fasciste et votre larme devient nazie. Donc, je suis profondément triste et profondément choqué qu'un jeune qui n'a rien demandé à personne se fasse tuer dans un déchaînement de violence. Mais vous savez, les déchaînements de violence qui accompagnent la mort de nos jeunes, ça n'a rien à voir avec des pugilats d'adolescents comme nous en avions connu quand nous étions jeunes nous-mêmes. C'est pas quelques roulades dans la figure pour une fille ou pour une mobilette ou pour une remarque de travers. Le déchaînement de violence qui va jusqu'au meurtre le plus sordide, il s'explique par une autre haine. On est rentré dans une autre dimension, mon cher Alexandre. Les racailles qui ont tué Louis avaient vis-à-vis de Louis une haine dans ce que Louis représentait, c'est-à-dire un Français et la France. Il y a une haine identitaire, inextinguible, qui ne peut qu'expliquer le déchaînement de haine et le bain de sang qu'a été le massacre de Louis hier. C'est ça qu'il explique. Aucun jeune à 13 ans ne tue l'un de ses camarades de cette façon-là. Sauf s'il a des griefs, sauf s'il vient d'une culture lui-même où le coup de couteau est le mode de règlement du conflit et qu'il a vis-à-vis de celui qui est en face de lui une haine tribale, une haine ethnique, une haine identitaire. Nous assistons à une africanisation du règlement de conflit avec la machette et le couteau. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé hier, pourquoi on l'appelle le francocide ? Parce que Louis n'est pas mort parce qu'il est jeune, contrairement à ce que disent la gauche et l'extrême gauche et les macronistes. Louis est mort parce qu'il est français. Il a été tué en tant que français. Et quand je dis que c'est tous ces meurtres mis bout à bout sont les prodromes des conflagrations identitaires de demain, nous y sommes. Au début, c'est individuel. Et enfin, ça finit par être, hélas, collectif si la politique ne parvient pas à absorber rapidement ce chaudron de violence.
On espère qu'elle y arrivera. Et Jean Messia, merci pour cette conclusion. Voilà, merci aussi pour votre présence dans cette saison, voilà, pour ici sur Ligne Droite. Et on vous dit bien sûr à bientôt, à la rentrée.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité. Sans subvention, 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite. La chronique de Lorient Simplifié.
Et pour cette chronique de Lorient Simplifié, nous retrouvons Jean Vallier de SOS Chrétien d'Orient. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors vous vouliez revenir sur les élections du 7 juin dernier en Arménie.
Oui, tout à fait, parce que demain, 26 juin, la Cour constitutionnelle d'Arménie se réunira à 11h. Pour étudier les recours déposés par les partis d'opposition contre les résultats de ces élections. Le moment s'annonce donc crucial pour le pays, plus divisé que jamais. Permettez-moi de résumer ainsi la situation. D'un côté, nous avons le Premier ministre Nicole Pachignan et son parti le Contrat Civil, arrivé au pouvoir en 2018 par une révolution de couleur, comme en Ukraine ou en Géorgie. Nicole Pachignan, depuis, n'a cessé de mettre en avant son bilan. La modernisation du pays, le renversement d'alliances pour tourner le dos à la Russie et se rapprocher de l'Union européenne, et surtout la normalisation des relations avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. La paix avec l'Azerbaïdjan voisin est d'ailleurs une de ses priorités, et ce n'est pas neuf, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises à ce micro. On se souvient ainsi qu'en 2023, Nicole Pachignan n'avait pas levé le petit doigt pour défendre l'Artsakh envahi par les forces azéries. On se souvient aussi que le 8 août dernier, Nicole Pachignan signait sous l'égide de Donald Trump un préaccord de paix avec Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais. Cet accord facilitait ainsi la vieille revendication azérie du corridor de Zanguezour qui permettra à l'Azerbaïdjan de rejoindre son exclave du Nakhitchevan situé de l'autre côté de l'Arménie. Vous savez, c'est la fameuse route Trump, route internationale Trump pour la paix et la prospérité. Alors pour l'opposition, ce préaccord est synonyme évidemment de concession et de compromis. Et c'est sans doute aussi la première étape d'une annexion pure et simple du Syunik, cette région montagneuse du sud du pays, revendiquée à de nombreuses reprises par l'Azerbaïdjan. L'Église apostolique arménienne pense sensiblement la même chose et c'est pour cela que Nicole Pachignan est en conflit ouvert avec elle. Il a emprisonné un certain nombre d'évêques, a interdit à d'autres, j'en ai rencontré un il y a quelques semaines, et au Catholicos, le chef de cette église arménienne, de sortir du territoire. Il encourage d'ailleurs sa déposition, n'hésitant pas à pousser au schisme une partie du clergé.
Et qui se présentait en face de Nicole Pachignan ?
Eh bien, de l'autre côté, il y avait principalement le mouvement Arménie Forte, plus proche de la Russie. Son chef de file, Samuel Karapetian, possède la double nationalité arménienne et russe. Ce mouvement se présente comme un défenseur de l'identité arménienne et des valeurs traditionnelles. C'est un soutien actif de l'Église apostolique. Il y avait également d'autres partis, dont l'ancien président Robert Kocharian. La campagne a été houleuse. À cause de sa double nationalité, Samuel Karapetian n'a pas pu se présenter. Il avait donc envoyé son neveu au combat. Il n'aurait d'ailleurs pas pu réellement faire campagne lui-même puisqu'il était en prison depuis le mois de juin 2025 et ce jusqu'en janvier dernier. Après, il était assigné à résidence pour, je cite l'accusation, « complot en vue d'usurper le pouvoir », ce qui, vous l'imaginez, ne facilite pas les choses pour faire campagne. À plusieurs reprises, on a vu également Nicole Pachignan s'en prendre aux dirigeants et habitants de l'Artsakh, les traitant par exemple de salauds ou d'ordures. Les vidéos ont largement circulé sur les réseaux sociaux.
Oui, alors quels ont été les résultats ?
Alors au lendemain des élections, les résultats donnaient le parti du Premier ministre sortant vainqueur avec 49,8%. En face, Arménie forte de Samuel Karapetian, 23,31%, puis un peu moins de 10% pour l'alliance Arménie de l'ancien président et presque 4% des voix pour un troisième parti d'opposition qui s'appelle Arménie Prospère, qui est dirigé par l'homme d'affaires Gagik Tsaharoukian. Bref, officiellement, le résultat est sans appel. Pourtant, il faut apporter un peu de nuance, parce que si Nicole Pachignan conserve bien sa majorité absolue, il n'atteint pas la majorité des deux tiers indispensables pour proposer une modification de la Constitution. Et ce n'est pas rien, la modification de la Constitution, on en a déjà parlé, est demandée par l'Azerbaïdjan dans le cadre des pourparlers de paix, afin d'en ôter toute référence à l'Artsakh. Mais ce résultat est à nuancer également parce que, après la campagne houleuse que je viens d'évoquer, l'opposition a dénoncé de nombreuses irrégularités le jour du vote. Des recours ont été déposés par l'opposition qui, pour une fois, s'est unie pour l'occasion. Et ce sont ces recours donc qui seront étudiés demain par la Cour constitutionnelle.
Alors, que reproche l'opposition aux vainqueurs ?
Alors, la liste est longue. Le gouvernement est accusé d'avoir utilisé les moyens de l'État pour faire campagne, d'avoir fait pression sur les fonctionnaires pour orienter leur vote, d'avoir forcé des militaires à voter en masse ou à voter plusieurs fois, vous savez, on les transporte en quart de bureau de vote en bureau de vote, d'avoir gonflé les listes électorales et d'avoir triché au dépouillement et permettant ainsi l'élimination, à quelques voix du parti Arménie Prospère. Et depuis le 7 juin, le climat politique est encore plus tendu en Arménie. Désormais, les trois principaux opposants sont inculpés. Le premier, nous en avons parlé, Samuel Karapetian, et ça date d'avant les élections, est en résidence surveillée pour complot. Le deuxième, Gagik Tsaharoukian, du parti Arménie Prospère, a été inculpé le 11 juin pour fraude et évasion fiscale. Les forces de l'ordre lui ont interdit de quitter le pays. Des enquêtes pour corruption électorale ont également été ouvertes et plusieurs hauts responsables et candidats de son mouvement ont été arrêtés et accusés d'avoir acheté des votes. Donc ça fait deux. Et le troisième, c'est l'ancien président Robert Khodcharian. Le 17 juin, c'est tout récent, la commission électorale centrale dirigée par un proche de Nicole Pachignan autorisait de nouvelles poursuites contre lui au sujet d'une transaction immobilière qui date de 2004. Il faut dire que le même jour, donc ce 17 juin, quelques heures avant l'inculpation de l'ancien président, devant le Parlement, Nicole Pachignan s'en était pris directement à ses trois opposants, et là je le cite, « Tant que je serai Premier ministre, je les écraserai personnellement, à la racine et de manière ciblée. De belles manières de démocrate, un démocrate qui recevra d'ailleurs prochainement une nouvelle visite d'Ursula von der Leyen. »
Après celle d'Emmanuel Macron, décidément. Merci beaucoup Jean Vallier. Tout de suite, on va écouter la revue de presse de Gilles Brochard.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour. Alors que la canicule n'a cessé de progresser partout en France et que le gouvernement tente de s'en préoccuper, le canard enchaîné, toujours à la pointe d'Embaumeau, a osé titrer cette semaine « Adopter la méthode le corps nu ». Le corps nu, en trois mots bien sûr, le corps physique. On le sait, jusqu'à dimanche, la France va subir les mêmes grosses chaleurs. Et tout cela laisse transpirer à grosses gouttes, écrit Eric Amtaz, la fâcheuse impression que le pays peine et traîne à s'adapter à un changement climatique qui s'impose pourtant comme une rude réalité à chacun de ces épisodes qui ont tendance à se rapprocher. À lire aussi en page intérieure dans le Canard enchaîné l'article intitulé « La canicule met nos centrales nucléaires en ébullition ». On apprend avec effarement que les 57 réacteurs tricolores sont de véritables bois sans soif. Au bas mot, EDF siphonne 30 milliards de mètres cubes d'eau douce pour ses installations atomiques en bordure de fleuve. Et quant aux centrales installées près des côtes, le risque est de devoir faire face aux invasions de méduses, comme en août dernier à Gravelines dans le Nord. Ces bestioles sont dopées par la chaleur et elles avaient obstrué les pompes à eau utilisées pour refroidir les réacteurs. Résultat, des arrêts automatiques intempestifs. Tout simplement médusant, ajoutent les deux auteurs de cet article. Même problématique avec les eaux fluviales, EDF a prévenu que les centrales du Bugey dans l'Ain et de Saint-Alban dans l'Isère allaient devoir mettre la pédale douce à cause des pics à 40 degrés. Comble du malheur, le lac Léman, de moins en moins alimenté par la fonte des glaciers suisses, ne joue plus son rôle de thermostat du Rhône. Sinon, vient de paraître le numéro 13, daté de juin, juillet, août, de la revue Omerta, qui titre en lettres rouges et jaunes « Occident dégénéré, deux points, jusqu'où iront-ils ?». Dans son éditorial, Régis Le Sommier revient sur l'affaire Epstein en se demandant comment un individu a-t-il pu corrompre une partie des élites de cette manière. Comment un homme a-t-il pu passer entre les mailles de la justice si longtemps pour continuer à prostituer des filles, parfois mineures, pour les livrer à des célébrités dont il se faisait un malin plaisir de filmer les ébats? Au passage, il rend hommage à Carl Zero, interviewé sur 6 pages pour son livre « Dans la peau d'Epstein ». Il fut le premier à avoir dénoncé les réseaux et les traitements infâmes que subissent les enfants en s'attirant les foudres de la profession jusqu'à se faire traiter de complotiste. Une page plus loin, Charles d'Anjou, le président d'Omerta, annonce que ce numéro est un cri d'alarme. « La dégénérescence occidentale n'est pas irréversible, écrit-il, pour la mémoire de nos anciens, pour nos enfants. Le réveil collectif est indispensable et il est urgent d'agir. » Alors je vous invite notamment à lire « Le bel éloge de la beauté » signé Laurent Dandrieux qui, en citant Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde », en vient à écrire qu'il y a une condition et une seule, qu'elle sache se faire chemin vers la vérité. À nous de devenir des aventuriers de la beauté perdue, cette nouvelle arche d'alliance qui nous permettra de racheter le monde de ce siècle de laideur, qui n'est tel que parce qu'il est un siècle de mensonges. À lire aussi l'entretien donné par Marion Sigaud, historienne et essayiste, qui décortique le parcours de Judith Reichmann, connue pour son combat contre la révolution sexuelle aux États-Unis à travers ses travaux consacrés au sociologue Alfred Kinsey. Elle évoque les dérives comme les tortures d'enfants, les escroqueries scientifiques et les dérives sexuelles assumées. Voilà, c'est à lire dans Omerta. Enfin, dans sa dernière livraison, l'ancestrale revue des Deux Mondes consacre son dossier à Jean Gabin. Le titre en une est « Monsieur Gabin ». Alors, comme l'écrit le romancier Christian Autier, l'acteur charrie avec lui un morceau d'histoire, une certaine idée du vieux pays, un album d'images en noir et blanc et en couleur. Lui qui est mort à la fin des Trente Glorieuses a incarné à la fois la France d'avant et celle des grandes mutations. Voir ses films, c'est aussi feuilleter un livre d'histoire. Gabin, c'était le Français éternel sous ses formes les plus diverses. Flic ou voyou, clochard ou pacha, président ouvrier, il a donné chair et âme à tous les visages de ses compatriotes. Autier a raison de voir en Gabin un bourru au cœur tendre, je cite, un homme de parole et d'honneur au tempérament volcanique. C'est ce que le public aimait en lui. Mais un regret tout de même pour Autier qui aurait aimé voir Gabin jouer dans des films de Chabrol ou de Sauté. De son côté, Philippe Delaroche s'est penché sur la rencontre entre l'acteur et le scénariste qui se sont fait tout seuls, l'ombrageux Gabin et l'espiègle Audiard qui débuta comme scénariste aux côtés d'André Hunebelle pour son film Mission à Tanger qui fera 2 millions d'entrées dès sa sortie en 1949. Tous les deux cultivaient une passion pour la langue de Céline et Audiard aurait bien aimé adapter Le Voyage au bout de la nuit dont Gabin connaît des répliques par cœur. Leur duo ne les empêchera pas de se brouiller entre 1964 et 67, mais de se retrouver en tournant Le Pacha. Sous son aspect puissant et sûr de lui, souligne son épouse Dominique Moncorgé, Jean était en réalité un être extrêmement sensible et vulnérable. Et pour terminer, je vous livre quelques-unes de ses meilleures répliques, toujours dans la revue des Deux Mondes. Tu portes la carte d'inspecteur sur la figure. Avoir l'air faucheton à ce point-là, je te jure que c'est vraiment de la franchise. Ça, c'est dans Pépé le Moco de Julien Duvivier en 1937. La peinture, c'est comme l'armée. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça, dans Le Soleil des Voyous de Jean Delannoy en 1967. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Un tatouage. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction? Alors ça, c'est dans Le Tatoué de Denis Lapatelière en 68. T'extasie pas sur la mer, elle a toujours été là. Ça, c'est dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil en 63. Et puis, je crois avoir été l'un des hommes les plus détestés de mon époque. Ce fut longtemps mon chagrin, c'est aujourd'hui mon orgueil. Ça, c'est évidemment dans le président d'Henri Verneuil. Voilà, tous ces mots et ces textes sont à retrouver dans le dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, donc consacré à Jean Gabin. Et je vous souhaite une bonne journée.
Zone libre.
On remercie Gilles Brochard et puis on salue. On vous a déjà vu autour de 7 heures.
Eh bien écoutez,
donc rebonjour oui. Maïlys.
On m'a vu ce matin au décryptage, mais c'est tout.
Oui, c'est ça, exactement. Après, vous êtes éclipsé. Et vous, Louis, bonjour.
C'est une première, bonjour à tous. Ouais, voilà, première de la matinée.
Voilà, une immense joie et surtout un honneur.
Non.
On va commencer par vous, Maïlys. D'abord, galanterie oblige. Vous avez, je crois, une exclue particulièrement importante à nous délivrer.
Oui, une exclue, pas vraiment, mais je vais vous faire part d'une petite naissance tout à fait exceptionnelle, hein, notamment qui concerne donc deux petites lionnes, puisque c'est un petit peu la tradition maintenant en zone libre. On parle très souvent d'animaux. Eh bien, figurez-vous, chers auditeurs, que les petites lionnes qui sont nées donc en avril dernier, Inès et Inaya, aux Eaux de Paris, ont retrouvé leur premier enclos. Voilà, donc tous les médias apparemment étaient sur place. Et écoutez, eh bien, le Zoo de Paris mise un petit peu sur cette naissance pour espérer attirer de nouveaux visiteurs. Donc pour les auditeurs qui nous regardent sur YouTube, eh bien, vous pouvez apercevoir ces petites bête absolument mignonne.
Ouais, des petites, on dit des lionceaux, des lioncelles peut-être, je ne sais pas, je l'ignore.
Je ne me suis pas renseignée. Mais
vous savez quoi, Maïlys, je vous en veux un peu de ne pas avoir été justement avec tous ces journalistes, avec tous ces médias pour assister à ça.
Je n'étais malheureusement pas au courant, mais renseignez-vous.
Prochaine naissance. Voilà, exactement. Prochaine naissance d'animaux mignons. On compte sur vous pour être sur le terrain, ici, sur Ligne Droite. On va parler d'un autre sujet. Alors, Louis Régulière, vous vouliez parler de votre vie.
D'une mésaventure.
Alors, on peut... Enfin, votre vie, donc ça commence... il y a longtemps.
Ça commence lundi soir, plutôt, il y a quelques jours. Ma vie a quand même pas mal basculé. Oui, exactement. Lundi soir, parce que vous avez sans doute déjà vu dans la presse, on en a beaucoup parlé quand même, il y a eu beaucoup d'articles de ce grand concert. Bah oui, il fait chaud, bien évidemment. Mais en plus, il y avait un concert le soir d'Iron Maiden. Iron Maiden, c'est le plus grand groupe de heavy metal au monde, le plus connu en tout cas.
Voilà, il faut savoir que Louis Régulière est particulièrement porté sur ce style de musique qui nous inflige du matin au soir avec un son maximal sur des enceintes dans les bureaux, donc autant vous dire que voilà, et avec Arnaud, avec la complicité d'Arnaud évidemment, qui n'en manque pas une.
Et pourquoi on a parlé de ce concert? Alors, parce que c'est pas rare, un concert d'Iron Maiden en France, c'est que tout simplement il y a eu un énorme problème lors de ce concert, en plein milieu d'une chanson, Two Minutes to Midnight, pour ceux qui connaissent le groupe, tout s'est éteint tout simplement, une coupure d'électricité générale, on s'est tous retrouvés dans le noir, les 30 000, 20 000 personnes qui étaient dans la Défense Arena et sans savoir exactement ce qui se tramait derrière et on ne savait pas si ça faisait partie du spectacle même.
Un bel exemple de sobriété énergétique.
Ah mais là c'était un peu radical, je veux bien dire, puisque même la clim était coupée et c'est vrai
et
que c'était
une personne à peu près
entre 20 et 30 000 bêtises, c'est quand même très grand
dans
la Défense Arena, dans une salle au départ très climatisée, c'était très agréable, le spectacle était vraiment assez jouissif à suivre et puis d'un coup voilà, plus rien et donc un peu plus d'une heure plus tard.
Mais vous, pardon, excusez-moi, Louis Régulière, je vous interromps, mais vous étiez nu comme un lion dans la fosse,
non,
c'est ça?
Non,
c'est,
pas dans
vous
la
étiez
fosse.
En train de déchirer vos vêtements comme ça en braillant ces musiques.
Non. Malheureusement, j'étais en tribune loin, donc les groupes étaient assez petits de là où j'étais. Et donc, il a fallu attendre plus d'une heure pour que ça revienne enfin à la normale. Et évidemment, ils n'ont pas pu faire l'entièreté du show parce que il fallait terminer à 23h30 parce qu'il y avait un couvre-feu imposé par les autorités. Le chanteur était bien évidemment en colère en proclamant qu'il préférait Bercy plutôt que la Défense Arena. Il était vraiment, parce que eux ils sont très professionnels, ils respectent leur public, ils trouvaient ça absolument pas normal de pouvoir
Qu'en plus ils devaient savoir que vous étiez dans la salle,
c'est surtout ça malheureusement, mais donc et puis il y a une pétition en ligne qui circule pour être remboursée. Alors il y a peu de chances que ça aboutisse, sachant que personne ne sait ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. L'enquête est à suivre.
Vous verrez ça effectivement pour voir si vous serez remboursé, puis la prochaine fois écoutez, que vous ferez un concert, faites-le en amoureux avec Arnaud, peut-être vous aurez plus de chance.
Arnaud a déjà vu Iron Maiden en concert, je crois.
Voilà, plusieurs fois.
Mais merci chers auditeurs d'avoir été avec nous, c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Merci, simplement avant de vous laisser partir, parce que nous on aimerait bien pouvoir garder la clim justement dans nos studios, nous avons besoin de vos dons.
Cette ligne est vitale en ce moment, effectivement. Ouais. Et ce qui est vital également pour Radio Courtoisie, eh bien, c'est votre générosité. Donc si vous souhaitez nous faire des dons en ligne, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et pour tous vos chèques, eh bien, vous nous les envoyez par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris.
Voilà, et tout de suite, on écoute Philippe Murer qui nous parle de l'euro numérique et son instrument de souveraineté européenne ou un nouvel outil de contrôle.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien, nous allons parler d'euro numérique. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que très récemment, le Parlement européen a approuvé à sa grande majorité une avancée justement dans la mise en place de cet euro numérique. Alors s'agit-il d'un instrument de souveraineté européenne ? S'agit-il d'un outil de contrôle ? Eh bien, nous allons parler de ce sujet avec Philippe Murer. Philippe Murer, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous êtes économiste, cofondateur du mouvement politique citoyen. Et alors, aujourd'hui, justement, c'est la première question que je voulais vous poser. Elle va être extrêmement simple. C'est cet euro numérique, de quoi s'agit-il de manière pratique ?
Alors, juste avant de vous expliquer ça, ça n'a pas été voté par le Parlement européen entier, contrairement à ce que dit Aurore Laluc, la députée européenne et la responsable de la Commission économique et monétaire du Parlement européen. Ça n'a été voté que par la Commission, qu'en commission. Mais ceci dit, vu que ça a été voté à 43 voix contre pour et 14 voix contre, on imagine que ça va être voté en juillet. Pour comprendre ce que c'est, il faut regarder qui est la responsable qui se félicite de ça. Aurore Laluc, elle fait partie elle est députée européenne, elle fait partie de Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Elle est aussi artificielle, aussi sans charisme et aussi fausse que son menteur. Et elle nous a dit « Heureuse nouvelle pour la liberté et la souveraineté des Européens ». Donc apparemment, tout va bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet euro numérique ? En fait, c'est comme des espèces, mais c'est dématérialisé. En fait, c'est un euro ensuite qui est émis par la BCE, qui n'est pas émis par votre banque, qui est émis par la BCE, par le compte de la BCE, et qu'on pourra utiliser, par exemple, en le mettant dans un portefeuille numérique. Voilà. Alors, les arguments que donnent les promoteurs de l'euro numérique, hein, qui sont les européistes, c'est, premièrement, c'est numérique, c'est l'avenir, et deuxièmement, vous avez tout à fait raison, ça permet la souveraineté numérique européenne, c'est-à-dire de se passer de Visa et de Mastercard, les géants américains, qui détiennent 60% des paiements électroniques en zone euro, notamment des paiements par carte bleue, par téléphone, etc.
Mais voilà. Simplement, mais pour... avant de rentrer justement dans ce fond du sujet, pour expliquer à nos auditeurs, quelle est la différence justement entre un euro numérique et un euro qui existe actuellement sur un compte bancaire ?
Aucune, si ce n'est que sur un compte bancaire, c'est votre banque qui le détient en fait, vous, qui vous a mis un compte bancaire à disposition, tandis que l'euro numérique de l'Union européenne, c'est un euro qui est détenu par la BCE. Mmh. Donc, c'est la BCE qui le détient, qui détient les informations, même si ça peut être mis sur votre compte bancaire, vous visualisez sur votre compte bancaire, mais c'est la BCE. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, ça n'apporte rien, parce que l'euro numérique, il existe déjà. Vous savez, quand vous faites une transaction par carte bleue, c'est de la monnaie électronique, c'est de la monnaie numérique, ça existe déjà. Quand vous faites une transaction, un paiement, moi je ne le fais pas personnellement, mais par téléphone, eh bien c'est aussi un euro numérique, un virement que vous faites aussi, c'est avec un euro numérique, mais privé, quoi, en fait.
Mais alors, voilà, ce que j'allais dire, c'est que la différence actuelle qui existe, c'est que de nombreux pays européens utilisent un système de paiement, donc, qui est plutôt Visa ou Mastercard, donc des systèmes de paiement américains, qui appartiennent donc à ces géants. Et ce que propose donc la Commission européenne, c'est de se passer de ces systèmes de paiement comme Visa ou Mastercard pour passer au système donc de l'euro numérique, qui permettrait donc d'être indépendant des Américains. Donc, dans la théorie, c'est plutôt une bonne idée, non ?
Ah oui, c'est tout à fait le discours qu'ils tiennent, et dans la théorie, c'est une bonne idée. Sauf que déjà, on voit qu'en France, c'est pas vrai, puisqu'en France, c'est le groupement carte bancaire qui gère, en fait, toutes les transactions numériques, et qui sont très largement majoritaires. Mmh. Mais alors, allons plus loin, c'est pas seulement franco-français, c'est-à-dire que il y a 16 grandes banques françaises, allemandes, belges, etc., qui se sont alliées pour créer un consortium qui s'appelle Wero, une association, qui est en fait le concurrent de Visa et de Mastercard. Et ça marche déjà. Mmh. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, ça marche déjà. Il y a déjà 47 millions d'utilisateurs. Et si on voulait imposer une solution, si le but c'est d'imposer une solution numérique européenne pour le paiement, eh bien, il suffit d'obliger tous les émetteurs de cartes bleues en Europe d'utiliser Wero et de permettre d'utiliser Wero, et le tour est joué et nous sommes souverains numériquement. Donc, on voit qu'en fait, tout ça, tous les descriptifs, tous les avantages théoriques de l'euro numérique, en fait, ce sont des mensonges qui sont émis par la Commission européenne.
Alors, justement, donc, là, en l'occurrence, cette initiative, donc, Wero, est lancée par des banques privées. L'objectif de la BCE avec cette euro numérique, c'est d'avoir une initiative, entre guillemets, publique européenne. Selon vous, Philippe Murer, justement, pourquoi la BCE veut-elle mettre en place une concurrence à quelque chose qui existe déjà et qui est déjà mené par les acteurs privés ?
Tout à fait. Mené par des acteurs privés, en plus, qui connaissent beaucoup mieux le sujet que le secteur public, parce que les acteurs privés, ils gèrent tous les problèmes de fraude, de transactions et de fraude, hein, qui sont graves, qui sont importants à maîtriser avec les systèmes numériques actuels. Qu'il gère depuis des dizaines d'années. Pourquoi l'Union européenne fait ça ? Parce qu'en fait, c'est un projet caché. Il y a un projet caché dedans parce que, en fait, l'Union européenne pourra tracer tous nos achats. En fait, l'État européen, le monstre européen, pourra tracer tous les achats des Européens avec cet euro numérique, puisque derrière, c'est un registre central, c'est eux qui vont pouvoir voir ce que vous avez dépensé ce week-end, ce que vous avez payé numériquement à un commerçant, ce que vous avez viré à qui et pourquoi. Voilà, donc ça permet un État intrusif, un État européen intrusif qui va tout savoir de vos achats. Alors, mais ce qui va plus loin...
Attendez, oui, Philippe Murer, parce que je vais citer Christine Lagarde, présidente de la BCE. La BCE n'aura pas accès aux données personnelles des utilisateurs et l'euro numérique ne vise pas du tout à remplacer les espèces. C'est ça qu'elle a assuré justement avant-hier.
Alors déjà, ils servent à remplacer les espèces, puisqu'en fait, c'est quand même un concurrent des espèces. Ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'elle ne va pas interdire les espèces. Mais l'euro numérique, ça sera un peu comme des espèces, mais en électronique. Le problème, c'est que c'est un registre centralisé pour appliquer les lois anti-blanchiment, etc. De toute manière, ils seront obligés de savoir qui a fait ces transactions. Ça, c'est la première chose. Et comment est-ce qu'on peut avoir confiance en eux ? Parce que avec ce registre centralisé, ils vont pouvoir bloquer les paiements des dissidents, des gens qu'ils n'apprécient pas. Et là, vous pouvez me dire, mais vous êtes quand même complotiste, vous êtes paranoïaque. Mais attendez, combien de médias alternatifs se font débancariser ? C'est-à-dire que leur compte bancaire est annulé. Je ne sais pas si ça arrivait à Radio Courtoisie.
Pour l'instant, je crois qu'on en est encore préservé par un coup du sort, mais c'est vrai que c'est arrivé à tellement de monde autour de nous que c'est sans doute qu'une question de semaine. Quoi, mais
bon, je ne vous le souhaite pas, vous avez de la chance, mais c'est arrivé à TV Liberté, qui est quand même un très gros média alternatif en France. C'est arrivé à d'autres médias, c'est arrivé à d'autres personnes. Et en plus, rappelons-nous qu'il y a des sanctions européennes qui ont été prises contre des personnalités publiques, comme l'ancien colonel de l'armée suisse Jacques Beau, parce qu'il n'a pas le même narratif de la guerre en Ukraine. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui travaillait pour l'OTAN avant et pour des journalistes. Et en fait, les sanctions que fait l'Union européenne, la Commission européenne contre ces gens-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est de les priver de comptes bancaires. Donc, on voit que le fait de craindre que la dissidence soit privée de comptes bancaires par la Commission européenne et que ce soit un outil de pouvoir est extrêmement important. Mmh. L'autre chose, c'est que cette monnaie, elle a un autre désavantage. Moi, je ne suis pas du tout contre l'État, hein, mais je suis contre donner des pouvoirs trop importants à l'État, parce que qui va tenir l'État ? Oui. On n'en sait rien, et ça peut être un dictateur, quelqu'un qui a des visées malveillantes. Mais cette monnaie, elle peut être paramétrée. En plus, elle pourrait être paramétrée, c'est-à-dire qu'on pourra vous acheter. Il y a une crise en Iran, il y a une guerre en Iran, une crise sur le pétrole et sur l'essence. Donc, en fait, vous pourrez acheter de l'essence que toutes les deux semaines. Ou alors, c'est pour émettre moins de CO2, on va vous limiter vos achats d'essence. Et là-dessus, François Hollande a fait une déclaration qui montre leur volonté de contrôle global, d'utiliser l'outil informatique pour contrôler les gens. Il a expliqué hier qu'en fait, Il faut un compte CO2 pour les gens, un compte CO2 qui permet, à partir de vos achats, de voir combien de CO2 vous consommez. Ça serait optionnel, évidemment, comme l'euro numérique, mais ça pourrait très bien devenir obligatoire et très bien participer à un crédit social à la chinoise, mais implanté dans l'Union européenne.
Et alors, autre question qui est un petit peu, bien sûr, liée à tout ça, c'est que pour l'instant, cet euro numérique, il est censé être totalement facultatif, c'est-à-dire que dans la manière dont c'est présenté, encore une fois, ils disent que globalement, tout le monde aura le choix de l'utiliser ou pas, encore une fois, l'objectif affiché de la Commission européenne n'est pas de supprimer les espèces, en tout cas dans ce qu'ils disent. Concrètement, est-ce que si c'est uniquement quelque chose d'optionnel, c'est si grave, entre guillemets.
Si ça ne reste qu'optionnel, c'est pas gravissime, même si ça sera embêtant, parce que l'euro numérique pourrait, toutes vos transactions par carte bancaire pourraient être surveillées parce qu'elles seraient des transactions à base d'euro numérique. Donc c'est déjà embêtant, mais c'est pas gravissime. Mais à tout instant, ils peuvent rendre cela obligatoire. Et on se rappelle que pendant une période bien dure pour les libertés comme la période du Covid, il y avait des choses qui étaient optionnelles qui sont devenues obligatoires. On nous a vendu des choses optionnelles, comme le pass sanitaire, vous savez, faire des tests pour aller au restaurant, des tests Covid pour aller au restaurant, au cinéma ou des vaccins. Eh bien, à la fin, c'était devenu obligatoire en quelques mois. Donc, c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait, c'est qu'une brique parmi toutes les briques que construit l'Union européenne, la Commission européenne, avec les gouvernements européistes. C'est-à-dire qu'il y a la brique du DSA qui a été construite, qui permet de supprimer 3 milliards de contenus par an. 3 milliards de contenus postés sur les réseaux sociaux ont été supprimés par an. On se rappelle que Macron disait d'ailleurs, pourquoi pas, puisque de toute manière, la liberté d'expression, c'est du bullshit. C'est lui-même qui l'a déclaré. Ce n'est pas important. Cette même Union européenne, elle est en train de mettre en place l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je ne suis pas forcément contre, mais certainement pas de la manière dont ils l'ont fait, parce que eux, ils le font pour implanter l'identité numérique. Vous serez obligé de vous identifier, et à terme, il est prévu que ça soit une identification numérique. Donc, entre l'identification numérique, c'est-à-dire comme présenter vos papiers ou présenter votre identité qui laisse des traces partout et qui permet de vous tracer, de vous surveiller, de vous bloquer. Et l'euro numérique est une brique de paiement. En fait, le pouvoir va pouvoir vous déconnecter de tout. Des réseaux sociaux, d'Internet, de la vie courante, de tous vos achats. Donc, si vous êtes décidant, en fait, l'Union européenne est en train de construire une véritable prison numérique. Et on comprend, l'Union européenne est une catastrophe, en fait. Dans les pays européens, il se passe, la situation est catastrophique, les gouvernements gèrent très mal, l'économie est en train de s'autodétruire, ainsi que l'agriculture, les problèmes de criminalité, d'immigration. Et en fait, ces gens-là ne veulent pas que ces nouvelles se... veulent garder le contrôle maximum, et garder le contrôle en gardant un cap qui est catastrophique, la seule manière de le faire, c'est le goulag numérique pour tous.
Oui, on comprend que on parlait également à cette antenne il y a quelques semaines aussi du chat contrôle qui rentre également un petit peu dans toute cette ce paradigme. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Muret, d'avoir pu d'abord faire œuvre de pédagogie, je pense, sur des sujets un petit peu compliqués comme celui-ci auprès de nos éditeurs, et puis d'avoir expliqué également tous les dangers de cet euro numérique, alors qu'une solution, encore une fois, privée et déjà européenne existe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on vous dit, sans doute à bientôt, à la rentrée, ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Merci, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Ligne Droite pour suivre toute cette matinale, ou même seulement partiellement. Cependant, même si la fin de la saison s'achève bientôt, il faut que vous nous aidiez à préparer la rentrée.
Et pour nous aider à préparer la rentrée, nous comptons sur votre générosité. Faites-nous des dons en ligne si vous le pouvez, en vous rendant sur soutenir.rc.fr. Et adressez-nous vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-06 Paris.
Voilà, et puis maintenant, quel sera le programme du jour, Arnaud ?
Dans un instant, Arrêt Affinité de Marie-Christine Lanier. À midi, le libre journal du cinéma de Philippe-Henri Rambaud, un road movie USA au programme. À 14h en direct, La tête hors de l'eau de Catherine Rouvier, consacrée au mal avec un grand M, M-A-L. À 17h, Sansoum Korda de l'AP Mathieu Raffray, il sera question de la Trinité. À 17h30, Restons Courtois, dirigé en direct par Marc Hainaut, le roman vrai de la droite. 19h30, le libre journal de Chrétienté, dirigé par Arnaud Guyot-Janin, la Corse aux Corses dans la France. Et puis ce soir, à 21h30, le libre journal de la France profonde, dirigé par Thibaut Dechasset, consacré au gouffre économique de l'immigration avec, entre autres, André Posco.
Voilà, merci beaucoup Arnaud. Et puis moi de mon côté, je vous dis à demain 8h45, même si Richard de Sèze sera là dès 7h pour animer Ligne Droite. Moi je serai là pour faire ma chronique bête. Merci beaucoup.
À demain.